Bonsoir tout le monde si vous nous écoutez en direct dans le magazine du soir, ou bonjour tout le monde si vous écoutez les rediffusions du matin et du midi. L'invité du magazine de Radio Vassivière aujourd'hui, c'est Monseigneur François Caliste, évêque du diocèse de Limoges. Bonjour Monsieur François Caliste.
Bonsoir à tous.
Comment je dois vous appeler, Monsieur, Monseigneur ?
Oh, tout ça c'est à peu près la même chose.
C'est à peu près la même
chose. Monseigneur, ça a la même origine, hein, et je crois qu'on est dans une société qui est plurielle et où les codes peuvent varier d'un milieu à l'autre, donc je passe sans arrêt d'un titre à l'autre, d'un protocole à l'autre, et c'est très bien comme ça.
On est parti pour un entretien d'une grosse vingtaine de minutes. Est-ce que vous allez bien avant de commencer ?
Oui, merci. D'autant mieux que je suis en Creuse depuis quelques jours et qu'on y vit bien, du moins pour ce que j'en vois.
Justement, c'est ma première question. Que fait l'évêque du diocèse de Limoges à Royères-de-Vassivière en ce vendredi 4 mars ?
Oui, vous prenez soin de souligner du diocèse de Limoges. Alors il est vrai que l'évêque est l'évêque de Limoges, donc de la ville de Limoges, mais il est l'évêque également du territoire qui l'entoure. Hein, et donc l'évêque de Limoges est... normalement aussi l'évêque de l'ensemble de la Haute-Vienne et de la Creuse. Il y a un seul évêché pour les deux départements. Donc l'évêque, par devoir, doit visiter son diocèse. C'est pourquoi je me transporte de temps à autre sur différents secteurs, hein, qui peuvent être aussi bien dans la Haute-Vienne que dans la Creuse. J'essaye d'alterner et j'essaye de visiter spécialement les paroisses qui sont peut-être les plus éloignées ou celles qui ont le plus de difficultés, hein, en raison, par exemple, de la faiblesse de leur population, en raison de difficultés économiques, en raison de telle ou telle question qui peut se poser localement, aussi au regard de la culture. Enfin bon, il y a toutes sortes de sujets, hein, qui intéressent l'évêque, mais il doit périodiquement visiter son diocèse. C'est donc ce que je fais. Cette visite, pas du tout une visite de contrôle, hein, c'est plutôt une visite pour mon information, connaître la réalité du diocèse au service duquel j'ai été ordonné, d'une part, et d'autre part, encourager les communautés chrétiennes que je rencontre, et pas seulement les communautés chrétiennes du reste, puisque au cours de ma visite, je ne visite pas que les réalités spécifiquement de l'Église catholique, mais un peu toutes les réalités. Et la meilleure preuve, c'est que je suis dans le studio de Radio Vassivière, qui, à ma connaissance, n'est pas une radio diocésaine. Donc si vous voulez, je m'intéresse un peu à toutes ces réalités.
Et est-ce qu'il y a des raisons particulières à Royères-de-Vassivière qui font que vous êtes là aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes là par rapport à l'enduro de quad qui va se dérouler ce week-end ?
Alors, pas directement, il est vrai. Je n'en connaissais pas l'existence avant d'y arriver. Non, je fais la visite pastorale dans la paroisse de Saint-Jean-Limousin, qui correspond donc à la ville de Bourganeuf et aux 27 clochers qui l'environnent. Il se trouve que Royères fait partie de ces 27 clochers et que parmi les 27 clochers, eh bien Royères est une sorte de relais. Hein. Il y a quelques villages, quelques communes qui ont plus d'importance, peut-être un peu plus de dynamisme, sont plus connus, développent davantage d'activités. Je crois que la rencontre des quads et des motocyclistes en est bien le signe. Hein, et donc, la raison, c'est... Je vais là aussi où il y a de l'activité et de la vie. Hein, mais sans négliger pour autant les communes les moins connues et parfois aussi les plus petites ou celles qui sont en difficulté. Enfin bon, le choix aujourd'hui, c'est celui de visiter un relais un peu plus important de la grande paroisse de Bourganeuf.
Alors tout le monde n'est pas un spécialiste de l'Église catholique, moi le premier. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est un évêque et un diocèse ?
Alors, un diocèse, c'est une sorte de circonscription de l'Église, hein, qui correspond en général en France à un département, ou deux départements, comme c'est le cas pour le diocèse de Limoges. Et un évêque, c'est le responsable de ce territoire, c'est le responsable de l'Église catholique pour l'ensemble de ce territoire. Et c'est, si on entre un peu plus dans l'histoire, c'est un apôtre, c'est-à-dire c'est un, un disciple du Christ, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, envoyé pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi l'évêque se déplace. Hein. L'évêque de Limoges réside à Limoges, bien sûr, mais on ne peut pas imaginer qu'il reste constamment dans sa cathédrale. Il se déplace parce qu'il est, au nom du Christ, porteur de la bonne nouvelle pour tous ceux à qui cette nouvelle est destinée. Hein. Donc je dirais que par essence, l'évêque est un itinérant, c'est un envoyé.
Porteur de la bonne nouvelle.
Porteur de la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est l'évangile.
La bonne nouvelle, c'est l'évangile.
On va prendre un petit peu de recul. Comment se porte l'Église catholique française ? On parle beaucoup de la baisse de fréquentation dans les églises, d'une crise de vocation des prêtres.
Oui, bah, il se porte. Il y a des soucis, bien sûr. Hein. Je crois que la baisse de fréquentation, elle est amorcée depuis longtemps. Hein. Donc, c'est pas quand même quelque chose de très nouveau. Je crois que c'est un phénomène qui remonte même les siècles. Hein. Pour faire un cours d'histoire, mais il me semble que depuis, mettons, au moins la Révolution française, il y a une large rupture. Et qu'il y a un amenuisement constant de la pratique. Il me semble qu'on a quand même, de ce point de vue-là, un peu touché le fond. Hein. C'est-à-dire qu'à force de s'amenuiser, on arrive à un minimum à peu près indépassable. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne pratique plus par convenance sociale ou par habitude, mais on pratique par conviction. Rien dans la société ne porte à le faire. Et il me semble que si quelques communautés chrétiennes se rassemblent encore, c'est parce qu'elles ont vraiment envie d'exister comme telles. Et je crois que d'une certaine façon, eh bien, l'Église a gagné en conviction. Hein, certainement perdu en nombre, en influence, c'est évidence. Mais je ne cherche pas à faire du chiffre. Hein. On n'est pas dans une logique d'entreprise, on est dans une logique d'annonce, de témoignage. Et donc l'important, c'est d'exister suffisamment pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Hein. Et ce qu'on a à dire, c'est cette bonne nouvelle de l'Évangile, le Christ est ressuscité. Alors après, vous dites, il y a une crise des vocations, c'est vrai, mais... De même que pour la pratique, hein, la crise des vocations, elle est amorcée, je pense, à peu près depuis les années 1830, c'est-à-dire depuis l'ère industrielle, hein, où finalement les territoires ruraux qui étaient traditionnellement les grands pourvoyeurs de vocations, eh bien, se sont peu à peu épuisés. Et aujourd'hui, il y a évidemment une mutation complète, hein, de notre société. Et les vocations qui subsistent sont rarement issues de ces terroirs ruraux comme autrefois, tout simplement parce que le tissu humain lui-même s'est amenuisé. Hein. Alors, une crise des vocations, oui, tout est relatif. Autrefois, il y avait un prêtre par clocher parce qu'on avait relativement peu de moyens de locomotion. Aujourd'hui, il y a comme à Bourganeuf un prêtre pour 27 clochers, mais il est assez rapidement rendu d'un lieu à l'autre. Donc, autrefois, il y avait des communautés importantes, aujourd'hui, elles sont plus réduites. Vous voyez, donc, c'est une question de proportion. Il y a moins de vocations, il est vrai. Il y a des besoins différents aussi. L'Église manque de prêtres, c'est vrai, mais le ministère du prêtre est encore assuré. Alors, il faut relativiser un peu tout cela. Actuellement, il y a 80 prêtres dans le diocèse, mais il n'y a pas que les prêtres. Hein. Tout ne dépend pas des prêtres. Tout n'est pas que une question de présence ou d'absence du prêtre. Il y a aussi l'émergence d'autres ministres, notamment les diacres permanents. Il y a dans le diocèse 24 diacres permanents. Je pense que nous en aurons d'autres dans les années à venir. Il y a aussi beaucoup de ministres laïcs ou de laïcs chargés d'une lettre de mission que leur confie l'évêque. Hein. Il y a une centaine de laïcs. Donc, si vous voulez, il y a moins de prêtres, c'est évident, mais le rôle du prêtre n'est pas non plus ce qu'il était autrefois. Et depuis quelques dizaines d'années, on a vu émerger un grand nombre de nouveaux acteurs laïcs, hein, qui autrefois n'existaient pas, ou de diacres qui autrefois existaient, mais sous une toute autre forme. Donc je dirais que l'Église a toujours, au fond, trouvé la ressource des ministres dont elle a besoin. Hein. Alors aujourd'hui, elle est en crise, mais tout est en crise. Hein. Et puis je pense que la vie humaine est une crise permanente.
Vous l'avez dit, on ne va pas faire une leçon d'histoire, ce serait un petit peu long. La société française est en évolution constante. Vous avez utilisé une expression assez forte, toucher le fond, en parlant de la baisse de fréquentation des églises. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir à l'image, au message de l'église en 2016 pour la rendre plus, alors c'est des termes un peu commerciaux, mais plus glamour, plus attractive pour les jeunes générations ?
Alors plus attractive, certainement, il faut soigner le moyen de communication. En même temps, on dit parfois que l'Église ne sait pas communiquer, je m'interroge là-dessus. Je pense que si l'Église n'avait jamais su communiquer, elle n'existerait plus du tout aujourd'hui. Or aujourd'hui, non seulement elle existe encore, mais qui plus est, elle intéresse. Je n'ai absolument pas demandé à venir pour cette interview, mais c'est vous qui me sollicitez. Donc je me dis, alors l'Église intéresse. Bon, si l'Église n'avait vraiment rien à dire, si son message est insignifiant, je pense que, on ne l'écouterait absolument pas et on la solliciterait même plus et on ignorait jusqu'à son existence. Donc si vous voulez, je pense qu'elle a toujours su communiquer, mais il n'est pas question que de maîtrise, je pense, dans votre question, des moyens de communication auxquels elle essaye de s'adapter, comme par exemple, il y a encore quand même dans un diocèse comme Limoges, qui n'est pourtant pas le mieux pourvu, il y a quand même une radio diocésaine, il y a quand même un journal qui est bien connu, encore largement diffusé, le Sillon, il y a encore... le bulletin diocésain qui renseigne régulièrement de façon officielle sur la vie du diocèse. Il y a un site internet, il y a des sites internet dans diverses paroisses, enfin, etc. Je veux dire, on n'est pas complètement décalé par rapport au monde. Mais je pense qu'il y a un deuxième aspect dans votre question qui est au fond, qui porte au fond davantage sur le contenu du message,
oui, sur
la manière dont il est présenté, que sur le média.
Oui, est-ce qu'il faut actualiser ou pas le message de l'Église en 2016
Alors, il me semble qu'il y a des choses qui peuvent être actualisées dans la forme, dans la manière, mais il y a des choses qui sont, j'ose dire, inactualisables sur le fond. Hein, je vais prendre un exemple, j'ai tout à l'heure, l'essentiel de l'évangile, bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. Hein, il était mort, il est revenu à la vie. Ben, ça, c'est non négociable, je veux dire, c'est l'essence même, l'essence même du message chrétien. Donc je crois que tant qu'il y aura des chrétiens sur la terre, ils diront cela, et pas autre chose. Alors, ça, c'est... Après, ça peut s'approfondir, ça peut se discuter, ça peut se... Je dirais pas que ça peut se démontrer, non, mais on peut chercher les raisons qu'on a de croire et on peut essayer de travailler sur le rapport entre la foi et l'intelligence. Bon. Mais il y a peut-être un autre aspect, hein, tout l'aspect, on va dire, social, toute la question des comportements, des mœurs, des choix de vie, etc. Bon, c'est vrai que l'Église, par rapport à un certain nombre de comportements ou de choix contemporains, peut paraître décalé. Hein. On évoque souvent son rigorisme en matière de morale sexuelle. On abonde plus volontiers dans son rappel, et le pape le fait suffisamment souvent, hein, de l'exigence du respect de l'autre, de la solidarité, du partage, de la revendication de droit pour la personne, et puis ce qui est plus nouveau, d'un investissement en faveur de nouveaux modes de vie, d'une écologie, autrement dit. Hein. Donc il y a des aspects du message de l'Église qui sont difficilement reçus parce que il touche certainement à l'intime de la personne, à des choix très, très personnels qu'on a du mal à remettre en cause. Et c'est bien normal qu'il y ait un tiraillement, qu'il y ait un conflit à ce niveau-là. Parce que l'Évangile ne se présente pas non plus comme une vérité, comment dirais-je, à laquelle on pourrait adhérer immédiatement, sans réserve et de manière définitive, mais l'Évangile se présente comme, je dirais, une voie de sanctification. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas des choses à faire impérativement, il y a une proposition de chemin de sainteté sur lequel le chrétien est amené à avancer progressivement. Vous voyez, souvent, l'erreur de perspective, c'est qu'on en fait un peu un absolu et qu'on ne voit pas que l'Église invite plutôt à un cheminement.
cheminement. Vous parliez de choses négociables, de choses non négociables. On parlait aussi d'évolution des mœurs. Alors un sujet sur lequel vous avez dû réfléchir et sur lequel vous avez dû vous prononcer plusieurs fois, j'imagine, un cas bien précis, le mariage pour tous. Qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous en tant qu'évêque du diocèse de Limoges et de la position de l'Église catholique française ?
J'ai eu l'occasion en son temps de manifester mon opinion à ce sujet. On peut toujours se reporter à l'Église de Limoges de l'époque. J'ai eu l'occasion de répondre à telle ou telle interview. Je crois que les mœurs ou les usages évoluent. L'Église a un message à rappeler. Doit-elle, pour se faire entendre ou pour se faire accepter, décalquer exactement les options et les valeurs du monde dans lequel elle vit? Je ne le crois pas. Je pense que sur le mariage, on peut avoir des options différentes. Le paradoxe est d'ailleurs que le mariage est très contesté aujourd'hui, que la famille est très éclatée aujourd'hui. Donc d'un côté, on conteste l'engagement définitif. De l'autre côté, on revendique le mariage pour des personnes de même sexe. Enfin, pourquoi pas ? Mais je veux dire, l'Église, pour se faire admettre, n'a pas pour autant vocation à épouser, je dirais sans jeu de mots, toutes les valeurs de son époque. Je crois que il y a un décalage qui est légitime et qui est prudent. Bon, alors après, sur les moyens, personnellement, je n'étais pas favorable, je l'ai écrit, je suis parfaitement solidaire de mes frères évêques sur ce sujet. Tous les évêques de France ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais nous n'avons pas pouvoir pour en décider dans la société. Et nous avons, d'un évêque à l'autre, parfois pris des positions, nous avons eu des attitudes différentes plutôt par rapport aux moyens. C'est-à-dire, certains ont manifesté ouvertement, d'autres n'ont pas fait et ont préféré s'exprimer d'autres manières. Bon, personnellement, je n'ai pas manifesté, mais ça ne regarde que moi. Je dirais sur le moyen, si vous voulez, je n'étais pas d'accord pour le faire. Sur le fond, j'étais d'accord pour dire que je n'étais pas d'accord avec cette évolution de la société. Bon, voilà, je crois que c'est aussi comme citoyen qu'on a le droit de s'exprimer sur cette question et de surcroît comme évêque pour éclairer le jugement de ceux qui nous sont confiés.
On va revenir un peu à Royat de Vassivière et son territoire. La montagne Limousine et ses alentours est une des régions les plus déchristianisées de France. Est-ce que ça en fait un territoire particulier pour un évêque ?
Oui, c'est une des régions les plus déchristianisées de France. Je ne porte pas de jugement, si vous voulez, là-dessus. Je crois que, comme évêque, on est envoyé à tous. On est envoyé à toutes les réalités. Il n'y a pas, je dirais, des bons diocèses avec plein de chrétiens partout et des mauvais diocèses où il y aurait une déchristianisation achevée. Je crois qu'il y a du travail à faire partout. Et le travail de l'évêque, c'est la mise en relation. Le travail de l'évêque, c'est de faire se reconnaître des réalités très différentes et d'essayer de les faire vivre ensemble. Donc, il y a toujours un petit fond chrétien, bien sûr, que j'essaye de rejoindre. Mais il y a aussi bien des réalités totalement séculières qui intéressent aussi l'évêque. Dans ma vie de pastorat, je vous disais tout à l'heure, je ne m'intéresse pas seulement à visiter les communautés chrétiennes existantes ou à reconquérir ou à faire je ne sais quelle prédication pour obtenir à tout prix de nouveaux disciples. Ce n'est pas mon propos. Si ça arrive, tant mieux, je le souhaite. Mais en même temps, je n'ai aucune illusion. Tout au plus, j'ai une espérance. Mais il m'intéresse beaucoup de rencontrer toutes les réalités aussi de la vie sociale, de la vie des entreprises, de la vie des associations, du monde culturel qui spécialement ici à Royer est bien présent. L'Église n'est pas dans une stratégie de conquête non plus, mais je pense qu'aujourd'hui elle entre davantage dans des partenariats. Je vais prendre l'exemple de la pastorale du tourisme. On sait combien les municipalités sont attentives à mettre en valeur leur patrimoine. Eh bien, les chrétiens sont aussi soucieux de transmettre ce patrimoine et d'en expliquer le sens. Je pense que des partenariats sont possibles. C'est plus en termes de partenariat, de rencontre, de dialogue que l'Église se situe. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que j'essaye de vivre cette visite, comme toutes les autres visites qui ont précédé.
Vous parliez de réalités différentes, de vivre ensemble. Comment vous envisagez, comment vous pensez le rapport entre les trois grandes religions monothéistes dans un contexte pour le moins tendu, avec les attentats de 2015, la crise des réfugiés, un Front National qui est devenu le troisième parti de France ?
Alors je crois que nous avons vocation, hein, comme Église, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler à développer le lien social. Alors nous y travaillons de diverses manières. D'une part, en essayant, comme je viens de le dire, d'être en dialogue avec la société civile, dans des partenariats, lorsque c'est possible. Hein. Il faut aussi que la société civile donne les moyens de ce partenariat par l'ouverture du dialogue. Bon, nous sommes aussi dans un effort constant de dialogue avec les autres religions. Alors, vous dites monothéiste à juste titre, parce que le dialogue nous est peut-être, je ne dis pas plus facile, mais plus naturel, hein, en raison de nos traditions communes. Et pour autant, le monde religieux en France ne se réduit pas au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui adhèrent à d'autres religions. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui adhèrent à aucune religion, et c'est leur droit. Donc, si vous voulez, ce dialogue plus naturel avec les religions monothéistes, nous essayons aussi de l'étendre à d'autres rencontres. Alors, il y a surtout les rencontres interreligieuses. Chaque année, à Limoges du moins, c'est peut-être plus difficile pour des raisons aussi de présence, hein, dans les espaces ruraux. Nous faisons donc des rencontres régulières entre la communauté juive, la communauté chrétienne, la communauté musulmane. Je dois dire pour la communauté chrétienne qu'elle implique d'un côté les catholiques, de l'autre les églises de tradition protestante. Et nous allons les uns chez les autres, et pendant une grande soirée, nous présentons chacun dans son lieu de culte un aspect de la vie du croyant à l'intention des croyants des autres religions, hein, et tout cela par alternance. Et puis, une fois dans l'année, nous faisons une grande conférence publique à quatre voix, catholiques, protestants, juifs, musulmans, et nous abordons là un grand sujet de société. Bon, le but n'est pas de faire de la théologie. Le but est de traiter un sujet à quatre voix en montrant qu'il est possible de dire des choses différentes en raison de nos traditions différentes sans se faire la guerre. Hein, et qu'on peut s'entendre, on peut s'écouter avec des opinions différentes sur des sujets qui intéressent tout le monde, non seulement nous-mêmes, mais toute la société. Et c'est une conférence publique, encore une fois, donc bien qui veut. À l'occasion des... Alors, cela permet d'entretenir, je dirais, un bon lien d'amitié, hein, et cela permet, lorsqu'il y a des difficultés, comme il y a eu cette année au moins à deux reprises, avec des attentats meurtriers, eh bien cela permet de rédiger rapidement des déclarations communes. Hein, je crois que ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas tout ce travail de dialogue en amont. Alors bien sûr, ça ne résout pas tous les problèmes, ça n'est qu'une amorce, enfin bon, on peut voir aussi tout le chemin à parcourir, hein, mais enfin, ce chemin-là que je viens de décrire est déjà parcouru, et il me semble qu'il faut continuer dans ce sens, en associant aussi d'autres partenaires, notamment associatifs ou d'autres courants de pensée, de telle sorte que nous puissions construire ensemble une société harmonieuse. J'enchaînerai là sur le concept de laïcité, hein, très volontiers. On parle beaucoup de la laïcité comme la solution universelle. Hein, et alors aujourd'hui, certains s'arc-boutent sur ce principe, quitte à devenir parfois un petit peu agressif à l'égard de tout ce qui peut relever de la religion. Je suis tout à fait partisan de la laïcité, mais d'une laïcité qui soit bien comprise, d'une laïcité qui suive à peu près la définition qu'en donnait entre autres Régis Debray, hein, c'est-à-dire que la laïcité n'est pas un courant spirituel parmi d'autres qui prétendrait imposer son hégémonie. La laïcité, c'est ce principe qui permet à toutes les familles spirituelles de se retrouver ensemble, de coexister. De telle sorte que tout ce qui leur est commun soit valorisé, et au-delà de ce qui peut les séparer du fait de leur tradition ou de leurs idées.
Vous parliez du travail des trois religions du livre pour un travail en commun qui a amené des déclarations communes. Vous parlez aussi de laïcité. On ne prête qu'aux riches et on prête à Malraux la phrase « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Quel rôle, quelle place, quel avenir pour la religion en 2016 et pour le siècle qui a commencé?
Je suis persuadé qu'elle a un grand avenir. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas de siècle du passé qui n'ait pas été religieux. Je ne vois pas pourquoi le 21e serait non religieux. Hein, qu'il se positionne différemment par rapport à la religion, que les religions se recomposent et se resituent différemment les unes par rapport aux autres. Maintenant, comme je dis souvent, je ne suis pas chargé de dire l'avenir. Ce qu'elles seront, je n'en sais rien. Ce que je veux pour elles, en tout cas pour la mienne, je sais ce que c'est de travailler à l'unité et au vivre ensemble, dans une harmonie, dans une communion des différences, sans lâcheté, sans naïveté et sans concession vis-à-vis de tous les exclusivismes. Et maintenant, mon travail aussi d'évêque, si je puis dire, mon ministère, c'est d'annoncer une espérance. Et je souhaite vraiment que d'une manière ou d'une autre, par des chemins différents, qu'ils soient ceux de la religion ou ceux de la non-religion, en tout cas, que les hommes et les femmes du XXIe siècle puissent vivre avec au cœur une espérance.
François Caliste, je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Limoges. Je vous remercie d'être venu dans nos studios.
Merci à vous, merci à tous. À une autre fois.
À une autre fois peut-être. Et quant à nous, on se retrouve prochainement sur les ondes de Radio Vassivière. Bye bye.